le 18-20 ce soir sur le débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, point d'orgue d'une campagne qui aura donc été folle jusqu'au bout. Le ton des échanges a été immédiatement d'une grande violence et les attaques ad hominem se sont poursuivies jusqu'au bout. Je suis très curieux, mais vraiment très curieux de savoir, amis auditeurs d'Inter, ce que vous avez pensé de ce débat. Vous a-t-il consterné, informé, inquiété, décidé à voter de telle ou telle manière? Parlons-en ensemble jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr, 01 45 24 7000. Pour le standard, Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Var.
Oui,
nous vous écoutons.
À tous.
Nous vous écoutons.
Oui, eh bien, moi j'ai assisté au débat hier, j'ai trouvé que c'était des querelles de collégiens, pratiquement. On n'a pas parlé de la France, on n'a pas parlé de l'avenir, on s'est surtout écharpé. Et sur le fond, moi je suis très déçu. Et comme en plus, ces deux candidats représentent une infime minorité, car même si M. Macron est élu dimanche, il ne faut pas oublier que le premier vote est aussi un vote, stratégique pour beaucoup de gens. Je me demande comment il va gouverner la France, je me demande comment il va organiser son parti ou ses soutiens pour les législatives.
Vous étiez, Bruno, vous étiez curieux de regarder ce débat
J'étais très curieux, oui. Mon opinion était faite, je suis un électeur de Mélenchon,
oui.
Mais j'étais décidé à voter blanc, puis ensuite Macron. J'ai hésité, mais...
Du coup, ça va donner quoi?
Je pense que je vais voter Macron, mais parce que quand même, j'ai été très très effaré de ce que Madame Le Pen, du comportement de Madame Le Pen, parce que elle n'a pas été mature du tout, elle n'a pas posé, on avait l'impression qu'elle n'avait pas préparé son débat, parce qu'elle aurait dû parler.
Vous n'allez pas aller au deuxième tour enthousiaste, plus résigné que jamais, quoi.
Pas du tout adhérent au programme de Monsieur Macron, pas du tout. D'abord, quel programme? On a entendu parler de rien, pratiquement, des réponses, et y compris même sa proposition de supprimer pour 80% des ménages la taxe d'habitation. Comment vont vivre les communes? Ils vont faire un repas. Enfin, l'État va payer, va donner. Ça n'a jamais marché, ça. Ça n'a jamais marché. À chaque fois qu'il y a eu ce dispositif-là, en général, c'était toujours insuffisant.
Merci, alors, Bruno. Merci d'être intervenu pour cette question d'ouverture au téléphone sonne. Pour dialoguer avec vous ce soir, Cécile Alduy, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de littérature à l'université de Stanford, chercheur associé au CEVIPOF à Sciences Po, auteur de Ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot. Mathieu Magnodex, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Mediapart, vous suivez la campagne d'Emmanuel Macron. Jérôme Jaffray, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directeur du CECOP. C'est bien cela. Merci d'être...
Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique.
Merci.
Et également chercheur associé au CEVIPOF, puisqu'il n'y a pas de raison de réserver ce titre à un seul invité.
Vous avez entièrement raison et on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Dites-nous, Jérôme Jaffray, comment avez-vous trouvé ce débat qui a regroupé 16 millions de téléspectateurs, ce qui est l'étiage bas en termes d'audience?
Ce qui m'a frappé, au-delà des remarques générales que chacun peut faire et fait manifestement, c'est le refus absolu de Marine Le Pen de jouer le jeu du débat présidentiel, tel que l'histoire politique de la Ve République depuis 40 ans a établi ce qu'était un débat présidentiel d'entre deux tours. Il y avait deux fonctions, normalement, dans ces débats présidentiels. C'est d'abord de polir la stature présidentielle de chacun des deux candidats, et d'autre part, d'être projet contre projet. Et donc de présenter cette situation. On se souvient de Mitterrand-Giscard. Évidemment, quand on a regardé hier ce qui s'est passé, pour ceux qui ont regardé, par exemple, sur le site de l'INA, les débats Mitterrand-Giscard, on est évidemment très loin de tout cela. Donc il y a un refus absolu de Marine Le Pen de jouer ce jeu-là, parce qu'elle a sans doute estimé que si elle partait comme ça, ça faisait le jeu d'Emmanuel Macron. Et que donc il fallait faire autre chose. Alors maintenant, est-ce que cette autre chose lui sera profitable? Mais si vous voulez, on voit bien, elle a voulu exprimer la colère du pays contre les politiques, et le sentiment de colère du pays est très fort. Elle a voulu exprimer, je dirais, la France d'en bas contre la France d'en haut, la France qui souffre contre l'arrogance, hein, c'est un de ses mots clés. Est-ce que tout cela a marché par rapport à son électorat? C'est son problème. Son problème, c'est les électeurs qui sont prêts à voter pour elle, et non pas le fait de plaire au milieu intellectuel parisien, vous dirait-elle.
Mathieu Magnedex, comment avez-vous regardé cette ce long échange assez violent et brutal?
D'abord, personnellement, assez difficilement, pourtant étant contraint d'écrire un article après, je dois dire qu'il y a des fois où vraiment on n'avait pas envie de continuer le spectacle, donc ça c'est plus pour la vie personnelle. Sur plus des aspects plus analytiques, et je pense que Cécile Alduy là-dessus a des éléments aussi très intéressants, je trouve que en fait, à court terme, on peut se demander en effet à quel jeu joue Marine Le Pen, parce qu'elle semble en fait mettre en cause, comme ça, à très court terme, toute la stratégie de, entre guillemets, dédiabolisation du Front National, hein, tout simplement parce que là, ce qui apparaît quand même, c'est la rhétorique classique dans tout son aspect, même le plus nauséabond parfois, de l'extrême droite en France depuis 100 ans, donc même plus de 100 ans. Donc là, je trouve que pour ce qui est du deuxième tour, ça semble compliqué pour elle, à mon avis, d'en faire un avantage pour ce deuxième tour. Cela dit, et là je trouve la réaction de votre auditeur, elle est très intéressante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans un deuxième temps que Marine Le Pen a eu des mots très durs et qu'il a pas compris, mais il dit aussi ça pourrit l'ensemble du débat. Et je crois que c'est aussi la stratégie de Marine Le Pen, c'est par une série d'insinuations installer comme ça une ambiance avant ce quinquennat qui va débuter, qui, si elle n'est pas élue, c'est installer une ambiance remplie d'insinuations, une espèce de pente glissante comme ça, très difficile et très compliquée et assez nauséabonde. Là aussi, c'est ce que disaient aujourd'hui des gens de la campagne d'Emmanuel Macron que j'ai eu au téléphone, qui disaient on sent qu'elle est en train de tenter d'instiller des choses, voilà, pour d'une certaine façon nous empêcher de faire. Et là, je pense que ce sera, elle veut aussi d'ailleurs se poser en opposante, hein, tout simplement. Et là, je pense que ce sera un des enjeux du lendemain de l'élection, si elle n'est pas élue, si c'est Emmanuel Macron qui est élu.
Cécile Alduy, qu'est-ce qui vous a intéressé ou interpellé dans ce débat?
En fait, ce qui m'a interpellé, c'est à quel point en fait Marine Le Pen s'est enfermée dans une rhétorique de l'agressivité, de l'attaque de l'autre, qui mettait finalement Emmanuel Macron au centre du jeu, et elle s'est interdit de proposer quoi que ce soit, y compris des mesures assez attrayantes comme remonter les petites retraites, faire un abattement de 10% sur les impôts des trois premières tranches. Enfin, il y a toute une série de mesures qui pourraient être vendeuses sur le papier, et elle s'est complètement interdit de les présenter. Et en s'enfermant dans cette logique d'agressivité et d'attaque contre son adversaire, il me semble qu'elle a effectivement saboté 2 ans de polissage de son image, de dédiabolisation. Et au départ, dans ses propos d'ouverture, on avait l'impression que c'était intentionnel. Et au fur et à mesure, on avait l'impression que c'était juste un ratage. Qu'elle n'arrivait plus à contrôler ni ses émotions, ni l'agenda médiatique de ce débat pour elle-même. Ce qui m'a frappé, c'est que ça fait 2, 3, 4 ans qu'elle est très très habile pour maîtriser sa parole et pour ne jamais dire le mot de trop, à l'inverse de son père. Or, hier, elle a eu des mots de trop, que ce soit les accusations à la limite de la diffamation à la fin du débat, que ce soit l'expression « l'Europe à la Schlag » qu'elle a lancée en dernière partie et qui rappelle plutôt des allusions un petit peu nauséabondes effectivement de son père. C'était extrêmement surprenant de voir quelqu'un qui est tellement capable de contrôler sa parole et ses silences, soudain de se livrer à une contre-performance comme celle-là.
Brice Teinturier nous a rejoint. Bonsoir Brice.
Bonsoir.
Directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Comment avez-vous regardé ce débat hier soir?
Un peu de la même façon. Moi, je crois que ce qui est apparu, c'est qu'elle ne sait en réalité pas faire autre chose que ce qu'elle a fait, c'est-à-dire une démolition d'un adversaire, une délégitimation d'un adversaire, mais une absence de proposition cohérente et de présidentialité potentielle. Et finalement, on avait eu un exemple en 95 avec un Lionel Jospin qui savait qu'il serait battu pour le second tour et qui avait choisi une toute autre optique dans ce débat, qui avait joué vraiment un débat qui avait été jugé à l'époque un peu terne, mais qui en réalité lui permettait de construire pour l'avenir, d'asseoir sa présidentialité. C'est ce que Marine Le Pen aurait pu faire. Moi, je ne pense pas qu'elle ne l'a pas voulu, je pense qu'elle en a été incapable. Et que ce que nous voyons ici, c'est en réalité la limite d'une stratégie, la limite aussi d'un leader dont on a dit et répété à satiété à quel point elle était bonne, intuitive, etc. Eh bien, en réalité, non. Elle ne l'est pas tant que cela, et je crois que ça s'est tout à fait révélé lors de ce débat, qu'elle a conduit comme c'était un débat avant le second tour, alors qu'il y avait un moment très particulier, et ça, elle ne l'a pas compris ou elle n'a pas voulu comprendre.
On repart au standard, énormément d'appels aujourd'hui sur France Inter. Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Marseille, bienvenue.
Bienvenue, oui. Alors, bah, écoutez, je suis d'accord avec les trois orateurs précédents, là, c'est qu'en fait, le Front National et Marine Le Pen ont monté leur vrai visage. Le Front National, malgré, on sait très bien que c'est un parti dans lequel il y a eu des pétinistes, des gens de l'Ouest, l'Occident, des jeunes nations, qui est un parti xénophobe et raciste. Et malgré la tentative de lissage qu'elle a pu donner, eh ben, elle a montré son vrai visage, je veux dire, et par l'agressivité, et par le verbe. Et comme on dit en Provence, tu peux laver le mortier, ils sont toujours là. Ça, c'est la première chose.
Je connaissais pas, c'est pas mal, hein.
Oui, voilà. Donc, le débat, effectivement, elle a pratiqué ce qu'elle pratique habituellement, c'est-à-dire qu'elle balance de fausses nouvelles, et que, effectivement, si on veut les contrarier, on perd son temps, et on n'arrive pas à rentrer dans le débat. Donc, le débat, Macron, est arrivé quand même à prendre la main, à certains moments, mais avec difficulté, et qu'en définitive, le débat était un petit peu faussé. Moi, pour ma part, je veux dire, j'ai trouvé que la prestation de Macron, malgré les difficultés, a été bonne, et qu'en plus, ce qui fait plaisir, c'est que quand même à Moscou, qui quand même soutient Marine Le Pen, on a dit que Macron avait pris la tête. Mmh. Ça, c'est là, voilà.
Allez, merci pour cette intervention. Restez en ligne, on va faire circuler la parole ici en studio. Jérôme Jaffré, vous vouliez dire un mot.
Oui, sur Emmanuel Macron, ne parlons pas que de Marine Le Pen. Il me semble qu'il y avait deux débatteurs hier, tout de même, ne l'oublions pas. Ce qui m'a paru intéressant chez Emmanuel Macron, d'abord, c'est le fait de résister à la mitraille, quand même. C'était une performance physique et personnelle, car l'un des objectifs de Marine Le Pen était de lui faire sortir de ses gonds et lui faire commettre une faute. Là, il l'a évité. Et puis, il a à chaque fois essayé de ramener sur les propositions et souligner l'absence de propositions de sa concurrente. Donc, de ce point de vue, il a accompli un peu ce qu'il fallait faire. Alors, en revanche, sur le plan politique, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a plutôt donné des signaux vers le centre droit et qu'il n'a rien fait pour la gauche. Et ça, c'est quand même très important pour dimanche et pour la suite. C'est-à-dire que, manifestement, Emmanuel Macron, d'abord, il a mis en avant la compétitivité comme objectif majeur, ce qui parle assez peu aux électeurs de gauche, mais beaucoup, beaucoup aux électeurs du centre droit. Ça, c'est un thème qui pour eux est majeur. Ensuite, on est passé à la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Bref, je n'ai rien entendu qui soit message direct vers les électeurs de gauche mélenchonistes, par exemple. Et alors, Marine Le Pen lui a servi sur un plateau, ce qui m'a assez stupéfait, je dois dire, le fait que, mais finalement, vos propositions sont assez proches de celles de Monsieur Fillon, ce qui était quand même un encouragement manifeste aux électeurs de Monsieur Fillon, fait par Madame Le Pen, pour aller voter pour Monsieur Macron, plus nombreux qu'il ne l'avait prévu. Là, je dois dire que j'ai été un peu sidéré.
Brice Teinturier, Cécile Alduy, Mathieu Magnodex. Voilà pour l'ordre de parole. Vous voulez ajouter un mot? Sinon, Cécile Alduy, hein?
Non, je crois qu'effectivement, pour prolonger ce que disait Jérôme Jaffré à l'instant, il me semble que ce que Emmanuel Macron a en tête, c'est que la recomposition, elle va encore plus vite que ce qu'il pouvait imaginer. Et que, en gros, il a fait le hold-up où il a déjà pillé une bonne partie de la gauche. Et que ce qui reste du côté de Jean-Luc Mélenchon, lui, est assez irréductiblement hostile sur le plan du contenu et des propositions. Et du coup, oui, c'est un choix qui me semble être beaucoup plus orienté maintenant du côté du pillage de la droite et du centre-droit. Mmh. Et là, on voyait bien, non seulement dans ce débat, mais dans les jours qui ont précédé aussi le débat, que c'est plutôt à cet électorat-là qu'il s'adresse, en ayant aussi, je crois, en tête ce qui s'est passé pour François Hollande et donc en essayant de ne pas se retrouver dans des moments de campagne ou d'entre-deux-tours qui créent ensuite des ambiguïtés qui vous poursuivent durant tout le quinquennat.
Cécile Alduy.
Oui, enfin, ce que a bien réalisé aussi Emmanuel Macron, c'était les enjeux de ce débat, c'est-à-dire les deux fonctions qui ont été soulignées tout à l'heure, c'est-à-dire se présidentialiser. Et il a, alors qu'on a beaucoup critiqué ses discours de meeting en disant qu'ils étaient un petit peu creux, que c'était plutôt un gourou qui s'adresse à ses foules, etc. Là, il a vraiment pris une stature de sérieux, de pragmatisme et de pédagogie. Et ce qui m'a marqué, c'est que il a plusieurs fois utilisé l'expression « en tant que chef des armées ». Donc, il s'est projeter à l'avance en tant que président, ce qui est une figure rhétorique très efficace pour faire imaginer à tout le monde « moi président ». Donc c'était son « moi président » à lui. Et l'autre chose, c'est que Marine Le Pen n'a eu de cesse de l'attaquer en lui disant qu'il était l'héritier de François Hollande et que tous les socialistes, les ministres socialistes, étaient derrière lui. Du coup, peut-être que c'est aussi... en conséquence de ça, qu'il s'est adressé plus à la droite en essayant de gommer cet héritage qui est rédhibitoire justement pour les électeurs de Fillon.
Mathieu ?
Non, il avait un des défis, c'est un défi important, c'était pas de s'énerver. C'était pas de s'énerver, de paraître arrogant, parce qu'il a le syndrome du bon élève, Emmanuel Macron, et le bon élève dans notre pays, on l'aime beaucoup quand c'est son fils, mais on l'aime pas trop quand... voilà. Et du coup, il ne s'est pas énervé, il n'a pas paru méprisant, ce qui peut être souvent sa tendance, et c'était un aspect important. Et ça, il en était, je crois, assez soulagé. Après, bon, je trouve qu'il n'y a pas été dans la promotion de son projet particulier particulièrement convaincant. Je trouve que parfois le côté techno d'Emmanuel Macron est assez souvent ressorti. Et par ailleurs, je comprends ce que vous dites, hein, notamment c'est vrai que Jérôme Jaffré, parce que en gros son objectif, s'il est élu, c'est en gros de casser l'accord électoral entre LR et l'UDI au lendemain de l'élection présidentielle. Donc c'est aussi pour ça qu'il s'adresse beaucoup à la droite. Je trouve quand même que il y a un problème, c'est-à-dire que il y a toujours cette idée chez beaucoup d'électeurs de gauche ce qui s'est passé en gros depuis 10 jours, qu'il tord le bras d'une certaine façon. Et je pense qu'on retrouvera dès l'élection, s'il est élu, beaucoup de traces de ça, et ça va laisser des traces très importantes, indépendamment du fait qu'il obtienne une majorité ou pas, etc. Ça va laisser des traces. Et ce que je trouve le plus fou, c'est que, en fait, je termine par là, il n'arrive pas trop à démentir, finalement, cette image compliqué qui lui colle à l'esprit. Alors je parle pas du tout de tous les clichés, de tous les aspects complètement nauséabonds dont a parlé Marine Le Pen, mais c'est quand même quelqu'un qui suscite pas mal de rejet comme ça instinctif. Il n'a pas réussi à, dans cette campagne, alors peut-être c'est pas que de son fait, hein, c'est une campagne qui a été extraordinairement particulière, avec des affaires, des scandales, une campagne très courte. Mais en tout cas, il arrive avec un capital politique, s'il est élu, qui me semble assez mince.
La parole va circuler en studio. Deux électeurs au standard de France Inter. Gilbert, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui. Alors, je voulais dire, moi, que j'ai voté au premier tour pour M. Macron, mais contre Le Pen, en fait. Et après la diffusion d'hier soir, je voterai Macron dimanche prochain, mais avec une part d'adhésion.
Ah oui, donc vous avez votre vote a gagné en intensité, si j'ose dire.
Exactement. Je n'étais pas très enthousiaste au premier tour, mais là, au deuxième tour, vu en plus la prestation lamentable de Marine Le Pen, vraiment, ça m'incite vraiment à voter encore plus pour Macron.
Merci Gilbert, restez en ligne, la parole à Dominique qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors dites-nous.
Oui, voilà, alors moi sur le premier tour, j'ai voté pour Marine Le Pen, donc, hein. Pas que je sois frontiste comme je le disais, mais pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, tout simplement. Hein. Je comptais voter sur le second tour pour donc la même candidate, mais j'ai regardé effectivement le débat hier soir, et vu ce que j'en ai vu, il est hors de question que je vote le second tour pour cette femme, quoi. Elle n'a pas du tout l'étoffe d'une présidente. Elle m'a franchement déçu, quoi. Elle dans l'agressivité tout le temps. Non, franchement, c'est je la vois pas présidente, quoi. Donc j'irai voter quand même. De toute façon, je ne veux pas voter Macron, donc je voterai blanc au risque évidemment que Madame Le Pen passe. Je le sais, hein. Mais ça m'étonnerait quand même, parce que vu la prestation d'hier soir, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs quand même qui doivent se dire bon, voilà quoi. On a vu le vrai visage de la dame. Là. Voilà.
Merci Dominique. Restez également en ligne, Brice Teinturier. On voit les déplacements là. Hein, oui, c'est intéressant.
Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que pour la première fois probablement, un débat d'entre-deux-tours présidentiel peut et va déplacer un certain nombre de suffrages. Et ça, c'est tout à fait inédit. Quand Emmanuel Macron est arrivé avant ce débat, son image était fortement dégradée. Sur les questions de proximité, Marine Le Pen l'emportait très nettement. Sur les questions également de capacité présidentielle, il faisait quasiment jeu égal. Et ce que le débat, à mon avis, a refabriqué, ce sont des items d'image totalement inversés, réinversés, et à nouveau à l'avantage d'Emmanuel Macron. Alors, sur le côté un peu technocratique et voire méprisant, parce qu'à un moment donné, il y avait, je crois, la détestation d'une femme d'un côté et le mépris d'un homme à son égard de l'autre. Mais comme il faisait en permanence la démonstration de l'inanité des propositions de Marine Le Pen, ça l'amenait à frôler quelques frontières un peu dangereuses où il pouvait donner le sentiment d'être justement assez technocratique, plus méprisant peut-être ou arrogant, en tous les cas, il tangentait ces limites-là, que pédagogique. Mais au global, la proximité qu'il lui manquait, je crois qu'elle est toujours présente de manière insuffisante, mais il a malgré tout énormément restauré des items d'image durant ce débat.
Cécile Alduy, rapidement, oui. Tour de table rapide, beaucoup de monde au standard.
Oui, je voulais réagir sur le témoignage de Dominique qui donc n'envisage plus de voter pour Marine Le Pen à cause de ce débat. Il me semble qu'au sein du Front National, il y a un mouvement quand même d'extrême déception qui s'est vu sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai eu aussi l'impression qu'hier soir, c'est l'avenir de Marion Maréchal Le Pen qui s'est ouvert très très largement pour le futur. Donc si Marine Le Pen fait une contre-performance électorale et pas seulement rhétorique dimanche, c'est aussi au sein du Front National et donc l'histoire de ce parti qui va être bouleversée. Mmh.
Jérôme Jaffray.
Oui, Marine Le Pen, son objectif, c'est... avait peu de chances d'être élu, évidemment, mais c'était de dépasser cette fameuse barre des 40% au second tour. Parce que finalement, le consensus des commentateurs observateurs, c'était au-dessus de 40, c'est pour elle un très beau succès, même si évidemment elle est battue. En dessous de 40, ce sera un échec. Or, comme elle était précisément sur cette ligne, je veux dire, c'est un risque considérable qu'elle a pris. Si elle a pris ce risque, c'est peut-être en partie aussi parce que ce travail, c'est de devenir la principale opposante à Macron pour la suite. Et donc, d'installer la violence de l'affrontement, la marque comme opposante principale pour les prochaines années et sur un nouveau type de clivage qu'elle veut instaurer et que Macron sert aussi, qui est le clivage des populistes contre les progressistes, les réformistes, et de s'installer. Alors là, il y avait une bataille avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Donc la violence de l'affrontement tient en partie à cela. Quant à Emmanuel Macron, il a quand même pris un moment un risque considérable pour la suite des opérations. C'est quand il a parlé de l'échec de tous les gouvernements depuis 20 ans. Or, dans ces gouvernements depuis 20 ans, il y a 10 ans de gouvernement de gauche, 10 ans de gouvernement de droite, 4 années pendant lesquelles Emmanuel Macron a exercé des responsabilités importantes, ce qui veut dire que si Emmanuel Macron est élu et si son quinquennat est considéré comme un échec, ce genre de propos ouvre la voie à un risque considérable pour ceux qui s'y opposent ou à une espérance forte pour ceux qui le souhaitent, à une remontée du Front National avec Marine ou avec Marion peut-être pour 2022. Car si vous dites, on a tous toujours échoué systématiquement depuis 20 ans, moi je vais réussir, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est le message Macron à la fin. C'est un message très risqué.
On retourne au standard. Bonsoir Zachary.
Bonsoir.
16 ans Zachary.
C'est ça, donc je peux pas encore voter, mais je suis un peu la campagne.
Mais tu peux regarder la télé.
Oui, quand même, le soir, après manger.
Voilà, alors
donc
raconte-nous.
J'ai regardé le débat.
Oui.
Et je trouve que Monsieur Macron a quand même été très bon face à Madame Le Pen, qui a été démagogue comme on l'attendait, je pense. Elle a fait son jukebox habituel dès qu'il lançait un sujet un peu sérieux. Elle répondait avec soit des mensonges, soit de la pure démagogie en transformant les faits. Et je crois que ça peut permettre de révéler le vrai visage d'une droite extrême. Elle a été très cynique, je trouve, voire indécente, quand elle parlait de djihadisme, notamment, en parlant de laxisme de la part des gouvernements. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Évidemment que tout ce qui peut être fait, essaye de l'être fait en tout cas. Je trouve que c'est très indécent de dire ça à la télé. Et c'est pour ça que, comme Madame Soubira, par exemple, le disait dans Le Monde hier, je pense que même si on n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée de Monsieur Macron, on peut pas fermer les yeux face à ce que représente Madame Le Pen, un parti donc d'extrême, une droite extrême, moi je préfère dire, et que il faut essayer d'y faire barrage, notamment pour nous qui avons 16, 17 ans, qui suivons cette actualité mais qui ne pourront pas voter. C'est pour nous plus tard aussi, donc essayer de faire barrage à Marine Le Pen en votant Monsieur Macron, même si on est obligé de mettre certains idéaux de gauche ou même de droite peut-être de côté.
Zachary, tu es pour le vote à 16 ans ou pas?
Oui.
J'imagine. Le niveau de frustration de ne pas pouvoir voter est gérable encore pour toi ou pas?
Un petit peu, ça va. Bon, on appelle France Inter.
Voilà, c'est ça. C'est une autre enceinte démocratique.
Voilà.
Reste avec nous, Zachary, parce que tu as, sans vouloir faire injure à mes invités, parfaitement le niveau pour participer à ce téléphone sonne. Donc, Donc reste avec nous, Zachary. Qui veut dire un mot, Brice Teinturier, ouais. Mathieu, qui
sur cette expression de faire barrage au Front National et sur la barre symbolique des 40%, je voudrais juste rappeler, quand on revient au suffrage exprimé, que malgré tout, même si Marine Le Pen fait 38% et en fonction des hypothèses de l'abstention, ça veut dire qu'elle obtiendra à minima 12 millions de suffrages exprimés. Et c'est colossal. 6 400 000 en 2012, 6 millions, un peu plus de 6 millions en régional, 7 600 000 au premier tour de l'élection présidentielle, potentiellement 12 millions, voire davantage, dimanche prochain. Donc de toute façon, malgré ce qu'on a évoqué à propos du débat, malgré ses outrances, malgré le ratage d'une stratégie de désextrémisation, c'est quand même un succès d'implantation qui est en train de se préparer et qui pèsera effectivement lourdement sur les législatives et sur l'après-second tour de cette présidentielle.
Mathieu ?
Oui, il y a quelque chose d'étrange pour ce qui est d'Emmanuel Macron qui... En fait, Emmanuel Macron, c'est comme ça depuis le début de la campagne. En fait, il convainc par défaut, d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, il convainc visiblement, d'après ce que vous dites ou d'après les témoignages qu'on a. Il faudra peut-être, on verra dimanche. Hein, mais il convainc peut-être, voilà, en regard, en comparaison par rapport à Marine Le Pen. Et finalement, c'est un peu l'histoire de cette campagne. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il part de rien. Il crée son parti, cette sorte de machine électorale comme ça qui s'appelle En Marche. Parti quand même, rappelons-le, à ses initiales. Ce qui est quand même hallucinant dans l'histoire politique française. Il faudra quand même garder ça en tête pour cette campagne présidentielle. Et c'est peut-être comme ça, en tout cas, il y a une chance sur deux qui va gagner la présidentielle après avoir créé son parti il y a un an. Et finalement... Il a bénéficié depuis, sans d'ailleurs nier ses talents particuliers, hein, il a bénéficié d'une succession comme ça de chances, d'occasions dans un paysage politique complètement dévasté qui lui permettent d'en arriver là où il est aujourd'hui. C'est à la fois une force probablement pour peut-être s'il l'emporte dimanche, et tout le monde dira c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. C'est aussi, ça porte aussi en soi, en germe, ça porte aussi un certain nombre de faiblesses politiques très fortes.
Zachary, si tu avais pu voter au premier tour, tu aurais voté pour qui?
Pas pour Emmanuel Macron, je crois pas. J'aurais hésité entre Jean-Luc Mélenchon, je pense, et Benoît Hamon.
Et comment tu as vécu, Zachary, tout le débat qu'il y a eu, justement, entre les deux tours de l'élection sur le fait de savoir si il fallait aller voter, s'il fallait s'abstenir, si on était ni pour Macron, ni pour Le Pen. Comment tu l'as vécu, ça?
Bah, un petit peu en retrait quand même, sachant que je pourrais pas voter, mais enfin on en a quand même parlé, bah, au lycée entre nous, même avec mes parents, j'ai eu ce débat un peu. Mmh. Bah, mais ouais, je pense que enfin faut hiérarchiser quand même les deux candidats. Il y en a quand même une qui est totalement anti-républicaine et je crois que ça peut pas être mis en dehors du débat, je pense.
Merci Zachary. Je posais cette question à Zachary pour savoir si justement le grand débat sur les possibles reports de voix de Jean-Luc Mélenchon vers Emmanuel Macron, si ça a pu, le débat a pu changer quelque chose ou pas. Jérôme Jaffray.
Oui, d'abord, bravo à Zachary, hein, qui est,
il est exceptionnel,
très prometteur, effectivement, et bien meilleur que nous, nous le reconnaissons volontiers. Ce Nini, c'est intéressant, car ça n'existait pas du tout en 2002, déjà, hein, donc c'est vraiment un changement, et qui vient en partie du fait de l'importance du clivage libéral-antilibéral dans cette élection présidentielle extrêmement fort, en réalité. Quand on regarde les rapports de force, c'est moitié-moitié, à peu près, le clivage en pourcentage des suffrages exprimés, en distinguant les candidats qui soutenaient des positions libérales, Macron et Fillon, pour parler clair, et les autres, eh ben, 45% Macron et Fillon, et une large moitié pour les autres. Et ce clivage étant suffisamment fort, et la crainte d'une victoire Le Pen très faible, c'est une différence avec 2002. En 2002, c'était un tel choc de voir Jean-Marie Le Pen se qualifier, un tel désaveu pour les sondages, pardon Brice Teinturier, qui ne l'avait pas vu venir, qui nous annonçait du Jospin-Chirac et on a eu Le Pen. Du coup, l'idée que Jean-Marie Le Pen pouvait être élu existait et les gens de gauche désespérés avaient besoin d'aller manifester dans la rue et de voter Chirac pour effacer ce 21 avril 2002. Là, l'idée que Marine Le Pen gagne, les pronostics dès le départ, très très nets, très massifs, pour nous dire ce sera Macron, et la position anti-libérale. Le débat, alors la question c'est du débat, est-ce que le débat tel que Marine Le Pen s'est montré et nous a rappelé ce qu'était le Front National fondamentalement, fait que les électeurs Mélenchon vont changer? En tout cas Macron, je le disais au début, n'a rien fait pour corriger sur le clivage libéral-antilibéral, il est plutôt allé chercher au centre droit, donc pour moi c'est une des grandes questions pour dimanche soir de savoir si les électeurs Mélenchon évoluent. Je rappelle qu'il y en a un maximum, la moitié qui vote aujourd'hui Macron, 15% à peu près pour Le Pen, malgré le mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon de dire pas une voix pour Le Pen, et un tiers environ qui s'abstient au vote blanc. Mmh.
Dominique est là. Dominique, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Dites-nous alors.
Alors moi, je vais me présenter d'abord, je suis d'extrême gauche résolument, je suis anticapitaliste. Mmh. Mais dès le premier tour, j'ai voté Macron, parce que le déclic, ça a été le modèle scandinave. Et je me suis dit, il vaut mieux quelque chose qui est une première marche, atteignable, mais qui donne de l'espoir aux gens, plutôt que pour moi un futur qui, pour l'instant, je le vois pas venir. Donc voilà, Macron, premier tour, deuxième tour. Donc j'ai écouté le débat à la radio. C'est super parce qu'on n'est pas embarrassé par les visages. Dès le départ, j'ai entendu cette voix chargée de haine de Marine Le Pen. Ça m'a vraiment sidérée. Et j'ai admiré tout au long du débat comment Macron a réussi à tenir. Et je me suis dit, si elle se révèle comme ça, c'est parce que pour une fois, il y a un mur de résistance en face d'elle qui lui a permis... De Macron, il a tenu, bon c'est vrai que des fois il y avait quand même des chipotages, mais il a tenu, il lui a fait mis que son programme c'était, bon faut dire de la connerie, hein, j'ose le dire, et elle n'a pas réussi à répondre, et donc elle s'est montrée de plus en plus telle qu'elle est. Et moi je dis chapeau, parce que grâce à lui, toute la France a pu voir ce qu'elle était. Mais et moi, je lui dis merci, Monsieur Macron.
Et moi, je vous dis merci, Dominique.
Aujourd'hui, c'est lui.
Moi, je vous dis merci, Dominique. L'antifasciste, c'est lui, vient de dire Dominique. Juste, il y a trop de monde au standard. Je voudrais encore donner la parole à Laurence. Bonsoir, Laurence.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Oui, bien sûr, de Meudon. Nous vous écoutons.
Oui. Oui, je voulais simplement dire que j'avais trouvé le débat d'hier soir, évidemment, tout à fait édifiant et révélant le vrai visage de Madame Le Pen. Mais ce qui m'interpelle, c'est toujours l'expectative des électeurs de Monsieur Mélenchon. Et je voulais simplement dire que pour moi, ils me font penser aux parents qui décident de ne pas vacciner leurs enfants en comptant sur les autres pour combattre les maladies. Je trouve que c'est une attitude irresponsable et j'espère qu'ils vont cesser de jouer aux apprentis sorciers.
Merci beaucoup, Laurence. Elle est importante, hein, cette question maintenant des reports de voix quand on a vu ce qu'on a vu hier. Mathieu ?
Oui, mais regardez, on vient de publier des papiers aujourd'hui dans Mediapart sur, par exemple, les quartiers populaires. Aujourd'hui, ils considèrent, on a fait notamment une enquête, un reportage à Montpellier, dans un quartier populaire qui est une très grande difficulté, où les gens considèrent, mais pour moi, ça ne changera rien. Ça ne changera rien de... Alors même que la personne qui interview dit oui, mais ça peut changer si vous êtes d'origine maghrébine, etc. Non, enfin, ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. Donc, en fait, vous avez toute une partie de la population qui ne se sont pas concernés du tout par cette élection et parce qu'on est en train de raconter. Et pire, et c'est pour faire le lien avec les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, pire pour ce qui est des gens qui sont insérés politiquement, qui réfléchissent, qui peuvent être conscientisés, qui peuvent, comme la dame, j'ai oublié son prénom, pardon.
Laurence. Et Dominique.
Et Dominique. C'est intéressant ce qui est dit, parce que moi je trouve que, par exemple, elle parlait du modèle scandinave. Au début de la campagne, en gros, Macron nous dit je vais faire un truc deuxième gauche, c'est-à-dire je vais faire ce qui a jamais été fait en France, c'est-à-dire ce qu'il dit souvent, libérer et protéger. C'est-à-dire à la fois, je libère la société, mais je protège les individus et j'aide les individus à s'émanciper, à sortir. En gros, on sort du truc lutte des classes classique marxiste et puis on fait un truc sur les trajectoires individuelles, l'émancipation des individus. Sauf que je trouve, et ça rejoint ce que vous dites sur l'aspect très, finalement, ce clivage très fort libéral par libéral dans la campagne, en fait, c'était complètement inaudible. Et lui-même, d'ailleurs, n'a même pas porté ce projet-là. Et en fait, le fait qu'il ne l'ait pas porté, je ne comprends pas très bien d'ailleurs pourquoi, c'est peut-être aussi parce qu'il s'est un peu droitisé à partir de l'affaire Fillon et que du coup, il y avait tout un parti de libéralisme politique qui était beaucoup plus difficile à porter, fait que, du coup, il est passé, en fait, pour une partie des classes populaires, comme le candidat purement du néolibéralisme, c'est tout, et qui n'a pas réussi à sortir de cette image-là.
Brice Teinturier.
Sur les reports des électeurs donc mélenchonistes, ce qui se jouait il y a une quinzaine d'années, c'était un combat république-anti-république, où Marine Le Pen incarnait l'adversaire et un danger pour la République. Jean-Marie Le Pen, pardon. Et ça, c'est justement ce qui est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui peut mobiliser cet électorat-là contre Marine Le Pen. En revanche, ce qui peut le mobiliser, c'est moins un combat pour sauver une République en danger qu'un combat contre la haine et l'exclusion. Et c'est pour cela, je crois que Marine Le Pen a fait véritablement une erreur importante durant ce débat, parce que ce que craignent les électeurs de gauche de type Mélenchon, c'est une société de l'exclusion, de la tension, de l'inhumanité, de la séparation, Macron. Et du coup, dans son registre extrêmement violent, virulent, voire haineux, eh bien Marine Le Pen a réactivé cette crainte-là. Et ça, je pense que ça peut être efficace pour une petite modification, au moins à la marge, des reports des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur Emmanuel Macron.
C'est-à-dire qu'après le débat, il est plus difficile de les renvoyer dos à dos.
Absolument. Voilà. À cause de ce moteur de la haine et de l'anti-haine, beaucoup plus que de la République ou l'anti-République.
Cécile Alduy.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen, elle s'est surtout décrédibilisée sur le fond aussi. C'est-à-dire qu'on dit que, enfin, beaucoup de nos témoignages disent, elle a montré son vrai visage. Mais en fait, elle n'a pas eu de propos racistes, elle n'a pas eu de propos xénophobes. Elle n'a même pas montré tellement ses propositions sur l'immigration. Enfin, c'était une petite partie du débat. Donc finalement, c'est pas effectivement la République contre l'anti-République. C'est juste qu'elle avait ses fiches dans lesquelles elle était plongée, même sur les questions pour lesquelles elle devrait être totalement au fait de son propre programme, comme l'Europe et le terrorisme. Et elle a pas montré une image ni de compétence, ni d'avoir un projet pour la France. Et ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que du coup, c'est le registre de son attitude, sa posture, ses sourires narquois, son agressivité, qui ont été le signifiant politique de ce débat. Et pas le contenu des propositions. Et du coup, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que l'impression qu'elle projetait de la haine, de l'exclusion, est venue au détriment même de ces phrases qui n'avaient pas de signifiant haineux ou exclusif. C'est-à-dire que plusieurs fois, elle a dit « Moi, j'accepte tout le monde, quelle que soit leur origine, leur religion, etc. » Mais le contenu des mots était renié par son attitude pleine d'agressivité.
Parce que oui, ce qui était effectivement tout à fait sursignifié, si on peut dire, c'était la violence et la démolition de l'individu. Elle cherchait à démolir son adversaire. Et c'est ça qui a créé, je crois, le réflexe aujourd'hui qu'on commence à mesurer dans l'opinion, d'une réaction face à cette démolition-là. Donc c'est pas simplement l'incompétence ou l'inanité des propositions, c'est véritablement, me semble-t-il...
Oui, c'est un autre monde.
Voilà,
c'est
autre chose. C'est un monde où on écrase, où on
c'est plus de la politique.
On vomit sur l'adversaire, où on l'écrase, où on le délégitime, où on l'invective. Et c'est ça qui a créé, qui crée la réaction actuelle.
Jérôme Jaffray.
Oui, sur Emmanuel Macron, la question qui se pose, c'est effectivement de quel capital politique va-t-il exactement disposer à partir du moment où on peut penser qu'il a les plus grandes chances d'être élu ce dimanche 7 mai. Le vote de refus va monter suite à ce débat. C'est un vote de refus contre Marine Le Pen. Et du coup, Emmanuel Macron qui...
Mais est-ce qu'il cachera le vote de classe ?
Alors, pas vraiment. Près de 60% des ouvriers... à ce second tour de l'élection présidentielle qui ont l'intention d'aller voter pour le moment, vote Marine Le Pen. Il faut le savoir. C'est-à-dire que cette colère que porte Marine Le Pen, qu'elle portait dans ce débat avec tous les défauts qu'il pouvait y avoir, c'était quand même une colère qui était ressentie par une partie des électeurs français qui se disaient, au fond, à ces élites arrogantes qui ont géré le pays comme ils l'ont géré, il faut quand même dire un certain nombre de choses. Alors, c'était oui, sûrement le domaine
le sentiment n'a pas disparu depuis
la dénonciation.
Hier soir.
Or, ce ressentiment, évidemment, il ne disparaît pas. Elle a même tout fait pour qu'il reste. Et vous savez, c'est dans les débats inégaux. L'un est intellectuel bourgeois, brillant, a fait les études les plus brillantes, et l'autre lui dit « Vous avez tout raté en réalité ». Voilà. Alors, le problème du capital politique de Macron, c'est qu'il est porté au premier tour en partie par un vote utile et au second tour en partie par un vote de refus. Alors, cela dit, le fait d'être élu président de la République, en principe, ça change quand même beaucoup les choses. C'est-à-dire, vous êtes élu président de la République...
Ça change beaucoup les choses.
Oui, mais ça peut peut-être les changer encore, parce que vous êtes élu, il y a une force qui tient à la légitimation de l'élection et à la capacité que vous avez d'en faire quelque chose, ça n'a pas toujours été réussi. Vous me le faites remarquer, je ne citerai aucun nom à ce sujet, mais on peut penser que peut-être les choses changeront cette fois-ci.
Bah, les débats de qualité durent moins longtemps que les autres. Jérôme Jaffray, Brice Teinturier, Mathieu Magnodex et Cécile Alduy, je suis obligé de fermer ce téléphone sonne. Un mot Brice, un mot rapide.
Si Zachary veut envoyer un jour son CV dans un institut de sondage, nous sommes preneurs à Ipsos.
On le prendra à la radio parce qu'il peut faire mieux que des sondages. Hein. Allez, le journal à suivre.